État critique. Critique de l'État.
État critique. Critique de l'État. État critique. Critique de l'État. État critique. Critique de l'État. État critique. Critique de l'État.
Aujourd'hui, Coyote reçoit Olivier Marbeuf dans le cadre de sa résidence à distance. Une résidence radiophonique peut-être, ou bien un groupe d'études critiques autour des formes, incarnations, ou bien des contre-histoires de l'État. Alors, État critique, critique de l'État, l'État contre la critique, ou bien la société contre l'État, la formule emblématique des clastres qui ont voulu bien renverser ce groupe d'études et penser plutôt un État contre la société. En pleine crise sanitaire, l'État, bien sûr, s'impose, s'absente, se dévoile, réglemente, surveille, punit, mesure. Et face aux questionnements radicaux provoqués justement par cette crise sanitaire, ce rôle de l'État devient de plus en plus très marqué dans nos quotidiens par une réglementation de la relation entre corps et lieu, présence, absence, sujet et État. C'est alors à l'invitation de la semeuse, une partie du laboratoire d'Aubervilliers, que Coyote propose alors deux cycles d'échanges comme une transformation de sa résidence. Alors, un premier cycle qui a une présence en ligne sur les ondes de Art 22 Tout le monde, qui se passe maintenant, on est au plein milieu de cette incantation. Et un deuxième cycle qui aura lieu au Chala au printemps de 2021, présentiellement au labo d'Aubervilliers, on ne sait pas. Avec Coyote, nous sommes justement au plein milieu de notre résidence à distance et nous menons à chaque jour une lecture critique à partir de méthodes d'arpentage, techniques héritées des mouvements ouvriers du 19e siècle, qui cherchent par une lecture collective et à voix haute à désacraliser l'œuvre en question par une lecture dynamique et critique. Nous nous connectons aujourd'hui à partir des géographies éclatées du groupe, et toi aussi, Olivier. Donc, Tristan à Athènes, Lisbonne, moi et Luno, Barcelone et Lille, Bagnolet, Clémence et Rennes avec toi, Olivier. La question qui hante toutes nos discussions autour de ces ouvrages, c'est en effet la question posée par l'œuvre des Clastres, l'une des premières que nous avons lues, qui est: quelle est l'origine de la forme État? Ou bien, dans les mots de James C. Scott, je me permets de passer à l'anglais, Why would anyone not impelled by hunger, danger or coercion would willingly give up hunting, foraging and pastoralism for being a full-time agriculturalist, the earliest form of the state? Alors, cette semaine, nous sommes justement en train de réactiver par des lectures critiques à voix haute les œuvres que nous avons accompagnées jusqu'ici. Donc, penser une société en dehors de l'État avec Pierre Clastres et sa relecture par l'anthropologue brésilien ou bien l'ethnologue britannique, comme il aime se décrire, Édouard Beberge Castro, dénaturaliser la forme étatique par une restitution critique et historique de la formation de l'État autour des pratiques d'agriculture en Mésopotamie avec James C. Scott, désensorceler la machine capitaliste comme une sorcellerie sans sorcière qui ne se présente pas comme telle, comme l'a bien remarqué hier Tristan, avec Isabelle Stengers et Philippe Pignard. Et aujourd'hui, opérer une radiographie psychédélique de l'État avec Michael Taussig, en même temps que fuir l'État vers ce que tu décris, Olivier, comme un pays en dehors, peuplé de visions et de délires. C'est bien sûr. Toutes ces œuvres aussi vont faire un écho avec la lecture qu'on va lire encore dans les prochains jours, qui est Une écologie décoloniale de Malcolm Ferdinand, à partir duquel on pense l'État à partir de sa forme primaire, la plantation. Donc, Olivier, on voulait à nouveau te remercier pour ta présence et ton ouverture. Olivier, qui accompagnait justement la trajectoire des Coyotes en tant que collectif depuis quelques années, et que nous accompagnons déjà, Olivier, depuis quelques années dans la fabrication des films, des récits, des formes élargies, vers un cinéma qui n'existe pas qu'à l'écran. un cinéma qui habite et qui se fait habiter par les corps de ses narrateurs et narratrices, qui cherche aussi à tisser un lien avec ceux qui sont trop souvent silencieux dans l'ombre de la salle, les publics. Olivier, tu es auteur, performeur, conteur, tu étais éditeur de bandes dessinées, commissaire d'exposition, producteur de films d'artistes toujours et fondateur de l'espace Chiasma, un lieu de rassemblement autour d'un feu bien chaud de la pensée. Nous avons aussi avec Coyote fait quelques présentations. Aujourd'hui avec toi, Olivier, nous t'invitons à lire et à commenter un essai, une proposition, ou ce que j'appellerais une traversée dans une nuit, dans les très beaux essais que tu as partagé avec nous, qui s'appelle « Vers un cinéma déparlant, une hypothèse caraïbe ». Ce que nous voulons te proposer aujourd'hui, Olivier, c'est que peut-être pour commencer, on te proposerait de lire l'ouverture de ce texte, qui nous pensons que justement peut prendre toute une autre dimension avec une lecture à voix haute par toi, et qu'ensuite on pourrait avoir une discussion autour de ce passage.
Merci beaucoup Anna, et merci à tous pour cette invitation. C'est vrai que dans le cadre de Coyote, ce qui est agréable et ce qui devrait être l'idéal, c'est de s'accueillir et de s'accompagner mutuellement, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit l'invité et l'invitant, mais que tout le monde soit à la fois invité et invitant d'un travail, d'une réflexion, ce qui ne génère aucune dette. Et ce qui est un des aspects intéressants, importants pour moi dans ma réflexion et dans la manière dont je considère en fait effectivement les modalités de relation. En fait, puisqu'on en parlera peut-être tout à l'heure, je pense que l'une pour moi des productions significative de l'État contemporain, c'est la dette. Mais on verra dans quelle forme, en fait, celle-ci, elle s'exprime, autant psychologiquement que matériellement. Et qu'en fait, on est produit en tant que sujet endetté par les États modernes. Donc, quelque part, pas de manière neutre, mais je dirais même comme sujet déjà endetté, c'est-à-dire avant même de l'être formellement. Donc je pense que les relations qu'on tisse d'une société en dehors de ces régimes de l'État, c'est aussi des relations qui tentent de porter attention au fait que la relation n'est pas une relation de dette. Mais du coup, en créant donc les conditions pour que chacun puisse accueillir l'autre. Ce qui pour moi a été très important dans l'expérience que j'ai menée notamment et que je mène encore avec d'autres en Haïti. Puisqu'il y a une histoire de la dette entre la France et Haïti, et que faire un projet dans ce contexte-là oblige à réfléchir à comment ne pas continuer la dette et comment créer un espèce d'espace dans lequel ce ne se continue pas ce qui a été entamé par l'État. Donc je dis ça parce que je pense que le texte « Vers un cinéma déparlant » est aussi impacté, plus qu'influencé et traversé, je dirais, par des expériences dans la Caraïbe et notamment en fait en Haïti, mais aussi dans une réflexion aussi plus personnelle sur la possibilité de penser avec une perspective caribéenne quand, comme moi, on a une partie de sa famille qui vient des Antilles françaises, c'est-à-dire un territoire qui n'existe pas dans l'imaginaire français métropolitain, et comment faire retour dans cet imaginaire-là, comment commencer à exister. Et là, on verra que les questions, justement, de réclamer une place sur une scène sont aussi des questions qu'on prenne des pièges et des contradictions. De manière générale, juste avant de dire cet extrait-là, je dirais aussi que, pour moi, ce qui va m'interpeller et m'intéresser dans un travail d'écriture, c'est d'abord qu'il me confronte, en premier lieu, moi-même à des contradictions que j'ai du mal à dénouer et que je dois dénouer en relation avec d'autres. Donc, je ne porte jamais de sujets qui ne sont pas des sujets qui me posent à moi-même des problèmes, parce que c'est une question d'honnêteté dans ce qu'on engage, et dont on est concerné aussi par ce qu'on dit en premier chef, et parfois dérangé par ce qu'on dit aussi. Donc ça, c'est aussi pour pouvoir partager une forme de dérangement avec d'autres. On ne peut pas se situer en dehors des questions qu'on pose. Donc je les pose aussi parce qu'elles me travaillent avant de devenir des textes. Quand elles sont des textes, déjà, c'est comme toutes sortes d'œuvres, ça va déjà mieux quand ça prend cette forme-là, mais c'est d'abord quelque chose qui me préoccupe, qui m'occupe au sens d'une... qui me hante. Mais... Vers un cinéma déparlant, une hypothèse caraïbe. L'introduction s'appelle « Une hallucination ». Fuite nocturne. Pieds frais dans l'humus et la racine lissée par les milliers de pas qui ont caressé sa surface autrefois rugueuse. Il laisse derrière lui les lumières d'une habitation pour l'obscurité inconnue d'une forêt. À jamais, il pense, je laisse à jamais. Il voit, il croit voir, mais il n'est pas sûr, il n'est sûr de rien. Peut-être un bras, une hanche, peut-être une main, une silhouette de feuille ou un arbre tordu qui court. Il ne sait pas où il va. Il ne sait pas vers quoi il se sauve. Il n'a pas de mots. Il court, il sent, il crie, il délire, il a peur. Quelque chose en lui est en train de mourir. Il doit perdre langue et il doit prendre langue avec un monde qui est là devant ses yeux. Il s'abandonne. Il boit sa sueur, nage dans sa salive et l'huile de ses propres muscles, frappe la peau de son ventre avec des tibias cassés. Sa tête est pleine du bruit des insectes qui remontent le nerf optique et glissent déjà vers la surface humide de l'œil. Il ne sait plus pleurer. D'autres sont là comme lui, perdus, à garde, comme lui, et elles ont quitté. Et elles se sont soustraites, dénouées, défaites, et elles se sont dépouillées d'une vie à répéter les gestes de la mort. Maintenant, il y a un temps nouveau, maintenant, et elles ne savent pas où aller et comment habiter ce temps et ce monde avec tout ce qui est là, intensément là. Et elles ne savent pas si un lieu existe où elles pourront déposer leur tête dans la fraîcheur et poser dessus des mains légères, de la boue, des feuilles et de la fumée. Et elles ne se voient pas, n'arrivent pas à se voir. Et elles claquent des dents et se tapent sur les mollets. Se voit maintenant par tous les bruits mats dont le corps est capable. Et elles découvrent tous leurs yeux, ouverts à la surface de la peau, et goûtent tous leurs orifices. Et elles tendent ses yeux dans le vide jusqu'à se sentir, car elles ne peuvent pas le faire seules. Et elles ne peuvent pas faire monter seules ces premières images d'un cinéma pour soi. Et elles se touchent maintenant par l'humidité de tous leurs yeux qui sont aussi des mains, des hanches, des fesses et des coups. D'immenses gouttes de sueur dans lesquelles des humains pourraient se tenir debout servent de loupe pour regarder les détails infinis d'une végétation bleue nuit. Sans déclaration, avant les premiers mots, Yel danse une ribambelle d'hallucinations qui se dresse et les traverse. Caraïbes, cela pourrait commencer ailleurs. Cela commence partout dans les périphéries du monde visible. Sur une plage d'Europe, dans l'aube verte de la Méditerranée, où des morts vivants fument une première clope après la traversée et avant de s'engager dans une vie criminelle sans sursis, dans une banlieue perdue où le souffle et la sueur noire glissent des mains de la police, en lisière d'une mine à ciel ouvert, d'une forêt en flammes, où des colonnes d'êtres minuscules s'en vont vers nulle part et se replongent dans un temps du rêve que l'œil délicat des drones ne peut apercevoir. Ils partagent un cinéma du dénuement. Ils hallucinent une autre vie.
Merci beaucoup, Olivier.
Merci pour cette magnifique lecture, Olivier.
C'est vrai que c'est un
texte. Je vais juste poser une question. Vous m'entendez?
Ouais.
Je vais poser une question en commençant par la fin de ton texte, mais pour nous éclairer l'expression que tu crées. Quel est le point de départ du cinéma des parlants?
Je crois que je peux dire que c'est une nécessité de se faire un cinéma. C'est-à-dire, en fait, de créer quelque chose. Au départ, j'aurais dit qu'il rend une certaine vie supportable. Et aujourd'hui, au bout d'un processus de travail un peu autour de ce texte, je dirais qu'il permet de vivre. C'est même pas rendre supportable, mais c'est créer un espace de vie en partant du principe que d'une espèce de droit au délire et de droit à l'hallucination pour pouvoir vivre, en fait. Comme on dirait, se faire son cinéma. et non pas en fait comme un désir, mais là comme une nécessité. Et ça, moi, je l'ai relié depuis dans un travail aussi que je mène en parallèle à Clichy-sous-Bois sur mon parcours en tant que jeune homme racisé en banlieue, sur le besoin de boniment, donc ce qu'on appelle le boniment et de fable, dans certaines situations sociales où la vie est invivable, en fait. Donc c'est pour soi, et c'est quand même aussi déjà, en fait, un espèce de lieu avec d'autres, parce que le délire, l'assignation, comme le boniment, ça adresse directement une communauté, ça fabrique directement... il faut qu'il y ait des gens qui soient dans ton délire, comme on dit, tu vois, on dit, dans ton cinéma. C'est pas une chose qui est possible seule, et le début du texte le dit, en fait, c'est d'abord un homme qui quitte un espace, mais il ne peut pas accomplir, en fait, ce cinéma des parents tout seul. Il y a besoin que quelque chose, une espèce de proto-première communauté se crée, et elle se crée justement, et là ça rejoint la question d'aujourd'hui, elle se crée sans contrat énoncé, ou en amont d'un contrat énoncé, en amont d'un contrat même matériel, elle se crée dans des images. Donc peut-être le cinéma d'apparence, c'est de dire aussi qu'il y a un niveau même d'un être ensemble qui peut être avant même, à proprement parler, le langage. Pour moi, ça, c'est assez central. Mais c'est central aussi pour soi. Et encore une fois, je crois qu'à plusieurs reprises, j'essaie de parler d'un cinéma pour soi. Faire des propositions, c'est important pour la santé mentale, notre santé mentale. Moi, ce sont des pratiques critiques. Et faire des propositions, c'est pour soi-même déjà, en fait, se dire qu'on va vers quelque chose, vers une forme de lieu possible et lieu vivable, et pas simplement dans une forme de négativité analytique, quoi. Parce que je crois pouvoir dire que l'une des stratégies des conservatismes qui s'opposent à nous, c'est de nous envahir, en fait, de négativité. Mm-hmm. Parce qu'il y a Et donc, quelque part, on absorbe de la négativité. On a l'impression que porter critique, y compris à des personnalités bouffonnes, ça sert à quelque chose, et je ne crois pas, en fait. Ouais. J'ai l'impression qu'il faut qu'on prenne plus de temps à prendre soin d'autres imaginations habitables par nous, en fait. En fait, je pense même que la stratégie conservatrice aujourd'hui dans le monde, elle n'a pas d'autre argument que de nous prendre du temps sur le temps qu'on doit consacrer à construire quelque chose pour nous. Donc c'est comme s'il n'y a pas d'argument autre qu'une espèce de stratégie émotionnelle. C'est pour ça que pour moi, ce travail de cinéma des parlants était aussi une forme de libération, d'une certaine forme d'emprise, de négativité en quelque sorte.
Et c'est une puissance d'agir aussi.
Je pense. Voilà. Du coup, ça produit
de la négativité, mais ça, de plus en plus, on le ressent. Enfin, là, notamment... nous, en France, quelque chose, une forme de surdité, d'ignorance, de continuer à vous ébattre tant que vous voulez et de se sentir impuissant face à la situation parce qu'on n'a pas de prise. Donc, c'est hyper important à cet endroit-là, ce dont tu parles, les imaginations habitables ou des espaces de vie, où on élabore des choses, en fait, pour nous, entre nous, en collectif. Quoi.
Et je crois, et là, je peux prendre l'exemple français parce qu'on l'a vécu avec la traduction plutôt réussie de Black Lives Matter, au mois de juin et vers l'été, dans des luttes situées. Je crois que c'est l'efficacité qu'on a réussi, et c'est relativement rare pour le souligner, à remettre à l'échelle des luttes globales dans des luttes françaises. Et aussi, je pense que l'État a entendu des jeunes hommes et des jeunes femmes, et c'est plutôt des femmes dans ce cas précis, racisées sur des plateaux de télé ou ailleurs, être très articulées. Et c'est là que la contre-attaque vient. C'est que là, l'État se dit mince, il y a quand même des imaginaires qui commencent à se disséminer dans la société avec des savoirs, des outils. Il y avait des débats où, moi j'en ai vu en ligne, où c'était implacable. Il y a vraiment la réponse était 10 fois meilleure que les agressions habituelles. Et donc, moi, je pense que la réaction relativement agressive contre le monde de l'université, par exemple, aujourd'hui, est une réaction à quelque chose qu'on a réussi. Et donc, il faut le noter aussi, parce que sinon, on n'est que dans des défaites.
Même la loi sur les séparatismes, je me posais... la nouvelle campagne de Macron depuis l'été, de parler beaucoup du séparatisme. Je me demandais si ça n'avait pas quand même une forme d'origine aussi dans les manifestations de juin, les quand même des conjonctures, des,
Moi, c'est sûr, c'est la peur des convergences et c'est aussi la peur. Moi, je suis intervenu à plusieurs reprises en 2020 dans des contextes universitaires où il y a une appétence et un goût des étudiants et une réticence énorme de l'institution, voire des profs. Et donc, cette espèce de décalage-là, moi, je savais bien que ça allait produire quelque chose. Mm-hmm. En fait, l'attaque de l'université va avec celle du séparatisme en général. Et c'est quand même des stratégies qui viennent malheureusement aussi de l'université. Tu vois les tribunes du Monde, pour un truc publié, on a reçu 10 tribunes de contre-attaque signées par des universitaires, etc. Il faut se regarder en face, en fait. Hein. Macron, il est armé par des universitaires qui utilisent l'État contre l'État. Justement, encore une fois, pour revenir à notre question, un usage punitif de l'État. Et que moi, je veux dire, des critiques que j'ai reçues comme d'autres, hein, avant moi, François Vergès, d'autres gens, etc., on les a entendues dans la bouche du président après. Hein. Donc, il faut aussi regarder que ce qui devrait être une lutte intellectuelle, donc un endroit passionnant de savoir pour des sociétés comme les nôtres, on n'a plus les capacités de les avoir. Donc on a une société qui ne progresse plus dans la positivité, en fait, qui n'arrive plus à produire et qui est dans une forme de négativité, quoi. Il y a des profs qui protègent leur précaré parce que leurs étudiants ne les écoutent plus. Moi, j'ai vraiment entendu des gens qui disent des remarques comme ça, en disant ils passent leur temps à citer ce que vous dites plutôt qu'écouter ce qu'on leur a raconté. Donc c'est une bonne nouvelle quelque part, et à la fois c'est une mauvaise nouvelle parce que il faut transformer l'essai. C'est pour ça qu'il faut des lieux maintenant. On ne peut pas se contenter d'avoir que des idées. Il faut des lieux pour habiter ces idées. Je pense par exemple aux expériences des ZAD, qui sont pour moi des pays en dehors, comme des espèces de prototypes. Moi, j'appelle ça aussi, je parlais dans mon texte de l'importance de la répétition au sens de « to rehearse some situation ». On n'aura pas tout de suite un contexte complètement idéal pour faire ce qu'on veut, mais il faut qu'on le répète au sens comme une performance qu'on doit. Et donc, pour moi, l'un des aspects des cinémas des parlants, c'est aussi ça, c'est l'espace de la répétition et de la préparation. C'est-à-dire pratiquer déjà, essayer à des petites échelles de faire la chose qu'on voudrait comme monde, parce qu'on n'aura pas tout de suite et toujours des grandes échelles pour le faire.
Tout à fait. Et c'est justement une proposition et un cinéma qui se passe, et c'est l'une des choses que je remarque, pas seulement dans ton texte, mais dans l'articulation du tout, qui, à mon sens, se traduirait dans un grand effort d'être présent dans le présent. Tu parles à un moment donné de justement ce que j'appellerais une fuite vers le futur, qui est quelque chose qui hante aussi tout type de récits autoritaires de la part d'État. Ce n'est pas anodin que les grands projets de président brésilien, que je n'aime pas du tout nommer son nom, à nouveau aussi par un effort de ne pas donner plus de visibilité à ces présences toxiques, mais que tout leur projet est lié à une idée que maintenant il faut construire, je cite, un pont avec le futur. Et qu'en fait, les récits de futur... Et comme tu dis très bien dans le texte, c'est toujours un récit pour s'en sortir d'une situation qui fait mal, non, d'une situation de perturbation, quelque part. Mmh. Donc, il y a cette fuite d'imagination vers un futur qui, en fait, n'est jamais un futur, car, comme tu le notes très bien, il n'est qu'une répétition de la scène dominante, non, dans un futur. Dans les pays dans lesquels je viens, il y a une obsession avec cette futur, parce qu'on est toujours en train de fuir les temps présents, particulièrement toujours fuir, brûler et détruire les temps passés, que ce soit à partir de la destruction des collections, des musées, d'archives, des peuples, des animaux, des objets, quoi que ce soit, parce qu'il faut fuir vers un futur. Et ce futur est un futur sans passé et sans présent. C'est que jusqu'à l'incarnation de l'autoritarisme complet.
Et y compris, comme dans le texte je le dis, c'est aussi réclamer aux présences minoritaires, si vous voulez parler, en fait, fabriquer du futur, quoi. Mm-hmm. Mettez-vous au travail, comme une espèce d'obligation de se mettre à l'agenda dominante. Et ça, c'est une réalité. Hein. Moi, je vais citer un exemple d'un texte dans le Quotidien des Arts, mais j'aurais pu en trouver d'autres, où certains critiques voient d'un bon œil de dire « Ok, s'il y a une blackness, alors elle doit être dans une futurité, quoi. » Donc, tu as une espèce de cahier des charges comme ça, de fabriquer le futur pour tout le monde, que je trouve faussement généreuse, en fait. Parce qu'évidemment, le futur doit tout de suite être pour tout le monde. Donc, du coup, c'est un petit peu comme le président brésilien qui dit « Les indigènes sont des propriétaires comme les autres, donc il faut qu'ils vendent la terre comme tout le monde. » Donc, rejoindre un « comme tout le monde » duquel tu as été rejeté. Et moi, l'une des hypothèses aussi, l'imaginaire qui me plaît, qui m'a beaucoup intéressé dans ce travail sur le texte du cinéma des parlants, c'est le fait de décider de ne pas rejoindre, en fait. Ceux qui ont été mis en dehors, en fait, ne reviennent pas. Décident de dire, on reste en dehors et on va tisser dans cet en dehors qui a été une négativité, qui a été une négation. On a été poussé en dehors. Une espèce de désir d'en dehors conservé. Tu dis, en ayant été considéré comme une ressource dans cette espèce de ressource non naturelle, on ne réclame pas de revenir dans l'humanité telle qu'elle s'est déclarée dans la modernité. Tu dis, ok, moi je ne reviens pas, je reste du côté de cette espèce de monde et j'essaie de tisser quelque chose à l'endroit où j'ai été poussé et de le rendre vivable, désirable pour d'autres. Et ça, c'est important pour moi parce que je pense que la pierre angulaire même des politiques de respectabilité, c'est la demande de dignité et d'humanité des minorités. Je crois que c'est un piège. Paradoxalement, en fait, il faut presque se dire, en fait, moi, j'ai rien à vous demander, en fait, quoi. Juste à me laisser le droit de pouvoir vivre une vie, quoi. Ouais. Mais pas définie par rapport à ce que vous dites être la vie, quoi.
Mais la chose, c'est que l'impression que j'ai, au moins dans un contexte si fort comme le contexte brésilien, c'est qu'en fait, tout qui est de l'ordre d'un dehors pose un problème au centre.
Donc, évidemment.
Ce n'est pas un hasard que les grands projets actuels de la politique contemporaine brésilienne, si on peut appeler ça un projet, c'est la terraplanage de toute l'Amazonie, parce que c'est un territoire en dehors, parce que c'est un territoire habité par une énorme quantité de sociétés qui ont voulu exister autrement. Et cette existence autrement est quelque chose que pose problème au projet territorial de colonisation complète du territoire du pays. Donc, quelque part aussi, cette vie en dehors, elle est toujours sous la menace d'une invasion par les centres. Et ça aussi, je pense que c'est l'une des questions majeures.
Ben on le sent même, il y a des dimensions territoriales et puis des dimensions psychologiques. Quand tu te défais du désir de quelque chose, et ça, c'est le problème de l'Occident aujourd'hui, c'est de ne plus être le seul futur ou présent désirable, et c'est une crise. En fait, il y a vraiment une crise du désir, parce qu'en fait, l'Occident s'est construit comme un corps central, et à la fois de référence et à la fois du désir. Et donc, toute l'institution occidentale est basée sur le fait qu'elle est l'espace désirable. Et donc, la fuite de cet espace désirable, déjà psychologiquement, même avant même d'être un territoire physique, psychologiquement est difficile parce que, en fait, la conquête des périphéries est essentiellement liée au fait que des gens se sont extraits du désir de l'Occident. Tout à l'heure, Clémence parlait du séparatisme. Qu'est-ce qui est pointé dans le séparatisme? Le fait que, tel que l'universalisme français décrit, en fait, le citoyen désirable, des gens n'ont pas envie de l'être. Et du coup, là, il y a une espèce de crise, en fait, parce que tu dis, c'est évidemment le truc le mieux, quoi. Et là, des gens dans ce pays-là disent, nous, on veut bien être français, mais on n'a pas envie d'être français comme ça. Ce qui, quand même, devrait pouvoir s'entendre, quand même, tu vois. C'est là qu'on voit que l'État, et pour en venir à la question de l'État, pour moi, il y a une notion centrale qui hante ce texte-là, qui est effectivement, on va dire, entre Foucault et Achille Mbembe, une biopolitique est en fait une nécropolitique d'État. C'est-à-dire que l'État, en fait, se définit par le droit à donner la mort et à décider de qui. Et donc, cette mort-là, elle va être directe dans la violence policière ou dans la déclaration du séparatisme, elle va être indirecte comme une mort sociale. C'est-à-dire, ce que tu es n'existe plus. Et là, on voit des États au Brésil ou aux États-Unis ou ailleurs où c'est radicalement les deux, en fait. C'est-à-dire une inexistence sociale et une impossibilité de respirer. Donc, quelque part, la définition même de l'État par une nécropolitique, c'est assez important, parce que pour moi, la scène de représentation de l'État, de référence, est vraiment la scène des politiques de respectabilité qu'on a connues aux Antilles, c'est-à-dire l'un des motifs centraux est l'exécution publique. C'est-à-dire qu'effectivement, d'abord, je te montre ma capacité à détruire, mais elle devient une espèce de chose qui te marque. Et donc, la loi de l'État va être à la fois une loi qui agit dans certains corps, Et là, c'est l'idée de Stengers aussi, c'est-à-dire que le corps de l'État, l'administration, tout un ensemble d'institutions sont agis par l'État, ça c'est des corps agis, et en face de ça, parce que ce n'est pas suffisant d'agir des corps, il y a des corps sur lesquels ou dans lesquels s'imprime l'État. Et ça, ça va être le code noir dans les colonies. Physiquement, on écrit la loi sur des corps. On va marquer des gens, on va couper des bouts de leur corps. Le corps devient un espace dans lequel s'inscrit en fait les puissances de la loi. Donc soit il t'agit, et s'il n'arrive pas à t'agir, il s'imprime et il va. Et donc la question de l'exécution publique, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, en gros, on va montrer ce qu'on peut faire au corps de notre force en fait. Et donc il y a quand même une notion de terreur qui va se jouer à cet endroit-là. Et donc, c'est vrai que quelque part, pour moi, la question de la scène de la représentation, telle que je disais, est aussi une scène des aveux d'une part, donc de le voir, et puis c'est une scène de mort. Mmh. Et cette scène, et cette négativité de l'État est pour moi hyper importante à comprendre, parce que en tant que Français notamment, comme on a un pays où l'État a une forme de centralité presque familiale, quelque chose s'est tissé d'une espèce de rapport filial des Français avec leur État, pour des bonnes et des mauvaises raisons, hein. Je veux dire, il n'y a pas que des mauvaises raisons. La présence de cette scène de mort, c'est un petit peu... C'est comme la violence dans le foyer, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va être enveloppant comme un rapport familial dans lequel il y a une violence qui est hépatite. Mmh. Et donc, moi, je trouve que les Français, ils sont dans un espèce de traumatisme, en fait, de violence non dite, quoi. Parce que si tu as cette espèce de proximité affective, familiale, filiale, avec... la personne qui te martyrise, tu es dans une espèce d'état très paradoxal de dire il faut que je détruise la famille par mon témoignage. Et on voit bien que dans les contextes de violence conjugale, de viol familial, c'est très compliqué pour des personnes de témoigner contre l'espace qui est l'espace de la famille, qui est l'espace le plus proche de soi. Et donc, quelque part, nous, notre rapport filial à l'État associé à un rapport de violence, je pense, en tant que Français, nous marque particulièrement à cause de ça, à cause de la dimension affective de l'État, qui est une dimension de violence, hein, quasiment systématiquement. Mais qui... Et donc, notre attachement à l'État nous empêche de concéder et de concevoir la violence qu'il nous fait. Et en fait, il y a eu un changement de paradigme contemporain. Moi, je trouve que les Gilets jaunes, parce qu'ils s'adressaient à un corps qui était un corps non minoritaire, qui n'était pas le corps racisé ou le corps queer ou les corps un peu des bords, mais un corps qui, dans lequel une large partie de la population pouvait se projeter, marque quand même une rupture pour moi. Et je pense une erreur de l'État. Parce que jusqu'à présent, en donnant l'impression qu'on ne punissait que des corps criminels, moi je parle beaucoup dans mon texte de vie criminelle, l'État a besoin de vie criminelle sur lesquelles s'exerce la violence d'État comme un exemple. Donc la vie criminelle, c'est l'espace sur lequel et dans lequel on écrit l'État. Beaucoup de gens se disaient, voilà, il y a les corps criminels, et puis nous, on est les corps filiaux, les corps de l'État, les corps protégés. Et là, il y a quelque chose qui s'est rompu et qui ne pourra pas se réparer. Je pense que beaucoup de Français ont vu que l'État était violent, dès lors qu'il n'était plus violent sur des corps spécifiques. Et ça, c'est important, je pense, aussi dans d'autres contextes dans le monde. Là, je parle de la France parce qu'il y a cette espèce de rapport affectif qui est très particulier, je crois.
On arrive un peu, je ne sais plus si c'est Elsa Dorlin qui parle de ces corps mutilables. C'est vrai qu'en France, c'est quelque chose qu'on a vraiment vu aussi. Enfin, j'ai l'impression que ce serait à partir de Nuit debout, à peu près, où ces corps mutilables ne sont plus dans les banlieues, loin des caméras, mais c'est des jeunes blancs qui prennent la République, la place de la République au cœur de Paris. Et ça, c'est un basculement effectivement très important et qui est aussi énormément renforcé par le mouvement des Gilets jaunes. Là,
ouais, tout à fait. Mais je pense que ce changement de corps est un changement de stratégie de l'État. Et je pense que c'est Ghassan Haj, le théoricien libanais, qui parle du passage de l'État dans le régime visible. C'est-à-dire que la main invisible de l'État, son efficacité en tant que force invisible, devient visible. Il est obligé, tu vois, il y a presque, il est poussé à devenir visible. Et qu'effectivement, moi je pense qu'il y a une stratégie de main invisible de l'État extrêmement sophistiquée, de violence que tout le monde ne subit pas et qui sont non dites, tu vois, qui sont inscrites dans. Et qui là, du coup, voilà, on passe dans la force visible. C'est pour ça que, quelque part, que fait aujourd'hui l'État? Il tente de protéger la police, qui est la partie la plus fragile de la violence de l'État, puisque c'est la plus visible. Parce qu'en réalité, on peut vraiment te produire une mort sociale sans avoir besoin de t'envoyer à la police. Hein. Il y a beaucoup d'autres moyens qui sont parfois plus efficaces, hein, tu sais. Des contrôles fiscaux, des machins, tu vois. Si tu demandes à Kader Attia les 4 ans de la colonie, ça a été quoi? Ça a été 4 contrôles fiscaux, ça a été des mesures de contrôle du son, de ci, du voisinage. Le harcèlement administratif, pour moi, est beaucoup plus puissant que la police, qui est quand même la partie la plus fragile de l'État, je trouve. À cause de sa visibilité, d'ailleurs, que Macron, intelligemment, pour le coup, même si c'est dramatique, tente de limiter. Il tente de limiter la possibilité de filmer les policiers, parce que c'est la partie la plus visible de la violence de l'État, et il ne faut pas la laisser trop visible quand même, parce que... Non, c'est important, je pense, parce que il essaie de supprimer, en fait, ce segment de visibilité de la violence. Parce que là, nous, on a eu une séquence, en plus renforcée par Black Lives Matter, où la police s'est révélée telle qu'elle est, pour beaucoup de gens concernés par les violences policières, mais s'est révélée à un beaucoup plus grand nombre de gens. Je veux dire, il y a des gens qui ont entendu parler de violences policières en prime time à la télévision française, et je peux te dire que ce n'est pas souvent que ça arrive. Mmh. Tu vois, ce genre de... Et ça, moi, je pense que c'est à ça que l'État réagit. Il s'est dit, non, ce n'est pas possible. Là. Ils ont réussi à mettre racisme systémique sur la première chaîne de télévision en prime time. On a violence policière, et est-ce que la police est raciste? Nous, en France, ça n'était jamais arrivé, quoi, depuis 68, quoi, tu vois. Mais on est vraiment... D'un coup, sont apparues des thématiques incroyables, de niche, quoi. De militants, de gens qui sont informés, qui sont devenus des thématiques grand public. Et ça, voilà, le livre se referme, mais on aura vu qu'il y a quelque chose qui peut se jouer. Et ça se joue sur la visibilité.
Mais c'est, pour moi, c'est paradoxal et intéressant, justement, cette relation entre visibilité et invisibilité par rapport à l'État. Non, mm-hmm. Nous parlons de cette main invisible d'État qui est partout, mais qui est la force presque spectrale qui connecte la forme État. James C. Scott, en fait, en parle aussi très bien. Mais ce que je trouve paradoxal, c'est que, quelque part, l'État s'est fait par un effort de visibilité, en fait, dans sa genèse. Si on pense à la formation des États, on a beaucoup appris, justement, avec James C. Scott, dans son effort d'essayer de regarder les sociétés qui ne les laissent pas de traces. Donc, des sociétés qui n'ont pas construit un empire, qui n'ont pas construit des monuments, et qui n'ont pas laissé des traces visibles, monumentales, de leur vie sur la planète. Donc, du coup, ils ne comptent pas. Ils ne vont pas compter dans l'histoire. Et donc, il va essayer de justement y aller voir ces traces-là, de ces gens qui n'ont pas laissé de résidus, qui ont regardé comme tels, qui ont regardé comme des traces des sociétés. Et bizarrement, c'est dans ces histoires qu'il surgit une espèce de contre-histoire qui montre que la naturalisation de la forme État est quelque chose qui était désiré par l'histoire. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui a se passé de forme naturelle, c'était un désir de cette forme État qui, en fait, colonise même notre manière de regarder les traces. Nous regardons les traces qui nous sont données. Mmh. Quelque part, il y a quelque chose d'étonnant dans ce désir de l'État contemporain d'invisibiliser ces pratiques de violence, qui me semble paradoxal par rapport à sa formation, car pour moi, la violence de l'État, elle est dans toute la construction des villes modernes, des espaces dans lesquels nous habitons, des papiers qui nous sont... Enfin, c'est-à-dire, elle est une violence de visibilité. Même le fait que la police est dans la rue, enfin, le fait qu'on ne peut pas les filmer maintenant, pour moi, à nouveau, c'est paradoxal, parce qu'ils sont uniformisés dans la rue avec énormément de spectateurs autour d'eux tout le temps. Donc, quelque part, pour moi, dans cette discussion entre visibilité et invisibilité, il y a un effort qui, en anglais, je dirais, is doomed to fail, même s'il le veut comme tel.
Oui, moi, je pense que l'État n'est pas en tout moment invisible et toujours invisible. En fait, c'est plutôt le désir de l'État de maîtriser ses régimes de visibilité. Par exemple, les statuts. C'est un régime de visibilité extrêmement maîtrisé. Et c'est pour ça que si je l'aborde dans mon texte Cinéma des parlants, il y a un moment qui se passe sur les statues et c'est un moment de cinéma. Mais peut-être que la chute des statues est un moment de cinéma, donc une espèce d'ouverture en quelque sorte. Où quelque chose peut se passer et qu'il faut échapper au désir d'en ériger d'autres. Parce que voilà, moi j'ai parlé avec plein de gens et puis il y a l'idée de se dire il faudrait d'autres figures pour un cas d'autre histoire, des figures minoritaires. Moi je suis contre cette idée-là en fait. Je trouve que justement, c'est emprunter le langage de l'État et c'est le renforcer, parce que tu peux mettre qui tu veux en réalité. Tu renforces des modes de narration et j'en parle un peu sur la figure de Toussaint Louverture ou comment l'État haïtien tente avec les restes qui ne sont même pas ses vrais restes, sont de la terre qui a été prise près d'où il est mort, tente de refaire un espèce de héros national en Haïti et diriger des statues. Et là, on est quand même dans les suds, quoi. Donc, quelque part, en relation complètement en miroir avec les modes narratifs de l'Occident. Donc, il y a une espèce de victoire de l'Occident là-dedans. C'est-à-dire que l'État haïtien veut faire la même chose que l'État français, quoi. Veut des statues de ses héros, veut faire... Et donc, quelque part, il n'y a pas d'autre histoire possible de cet aspect. Et donc, c'est un peu à cet endroit-là que moi, je me suis intéressé à la question des statues. Mais je pense aussi qu'on doit penser que l'État est un spectacle, quoi, dans le moment contemporain. Et ce qui pose problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des productions de spectacles qui ne sont pas que produites par l'État, et l'État est en concurrence. Il y a des concurrents, en quelque sorte, parce que c'est vrai qu'il y a eu un espèce de spectacle de la violence policière, et, et ils ont flippé, parce qu'ils disent on n'est plus les seuls à produire le spectacle de l'État.
Mais que je trouve qu'il est dans son amerté, il a tout un intérêt de le faire, qui est le principe que le narrateur prendre la voix d'un narrateur toxique. Qui est Mission, qui est cet anthropologue qui a envie qu'en fait tout qu'il regarde soit une projection de ses désirs, de qu'est-ce qu'il devrait être quelque part. Et dans cette. Je ne pense pas que c'est cynique, mais je pense que dans l'ironie romantique.
Oui, il y a une ironie, ce n'est pas du cynisme, c'est de l'ironie, je
pense. Oui, je pense que c'est plutôt de l'ironie. Il arrive à faire quelque chose que parfois je ressens aussi, par exemple chez Édouard de Vergecastre, cette miroir, non, de d'une pensée occidentale dans toute sa toxicité, qui quelque part, au moins, je pense que pour nos recherches autour de l'État, ça semblait tout à fait
pire. C'est clair.
La forme aussi de The Magic of the State nous a beaucoup emporté, en fait, de jouer aussi le côté complètement fabulatoire, mythologique, etc., de construction, de la manière dont l'État se construit, et que ce soit vraiment très mis en scène, ça nous a forcément beaucoup interpellé et on a passé un petit peu de temps là-dessus. Et même au sein des autres lectures, c'était quelque chose de tout de suite, c'était un souffle assez puissant, en fait, par rapport à d'autres, nos autres écrits qui sont plus des formes de textes de chercheurs.
Oui, parce que moi, je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas trouver sans forme particulière. Bon, je sais que je presse des convaincus et le travail d'Anna parle de ça aussi, mais je pense qu'en fait, tout n'est pas une question d'idées. Il y a des choses qui vont se résoudre dans la forme, en fait. C'est l'acte aussi qu'il arrive à faire des opérations qu'on ne peut pas faire conceptuellement sans faire une forme. Tu vois, qui ça va te parler parce que c'est la forme qui réalise ça. Et ça, je trouve ça, c'est moi, c'est ce qui m'enthousiasme dans son écriture, à vrai dire. C'est l'ambition de la forme comme une très sérieuse solution pour toucher à des choses qui conceptuellement sont indémêlables, sinon, en fait.
Justement. Je pense que, d'ailleurs, Olivier, merci de revenir à cette question qui est majeure, qui est la question de la forme, qui relie nos conversations, nos discussions, ton travail, mon travail, le travail des autres. Cette question de, alors, comment faire une club de lecture qui n'est pas juste en train de répéter le même modèle, mais d'essayer d'avoir quand même des protocoles qui créent des formes.
Avec plaisir pour cette lecture. Clémence, tu nous dis un peu comment ça se passe?
Oui, exactement. Donc, on s'est appuyé sur cette méthode que tu connais peut-être d'ailleurs déjà par ailleurs, Olivier, donc la méthode de l'arpentage. Elle nous a intéressés parce qu'elle vient aussi, elle a toute une histoire, elle vient du mouvement ouvrier, de la fin du 19e siècle. Les résistants pendant la Seconde Guerre mondiale s'en sont réemparés et après, c'est devenu aussi une technique depuis les années 50 vraiment utilisée par l'éducation populaire. Et c'est en fait du coup une technique, c'est une forme d'appropriation collective d'une œuvre qui désacralise complètement l'objet livre, étant donné que le principe c'est même, pour découvrir un livre, en fait on va le déchirer en part égale du nombre de personnes qui participent à la séance. Et donc là tu casses l'objet, peu importe les chapitres, la construction, mais tu te répartis en tout cas l'ouvrage. Et après, c'est une manière de... c'est plutôt normalement des lectures silencieuses ou en petits groupes que tu fais. Et donc, tu vas retirer des points qui te semblent importants. Et après, tu les partages avec l'ensemble du groupe. Et c'est comme ça que tu parcours l'intégralité de l'œuvre. Ce qui nous intéressait aussi, c'est que ce n'est pas une manière de... Enfin, voilà, c'est une forme, bien sûr, qui n'est pas scolaire. Ce n'est pas une manière de faire un résumé savant ou une synthèse parfaite de l'œuvre, mais plutôt d'essayer d'en retirer des objets qui font écho par rapport à une pratique, des interrogations. Donc là, ça a fonctionné aussi bien pour nous dans le fil un peu de cette semaine critique autour de l'État. Et donc, nous, là où on travaille un peu différemment, c'est qu'effectivement, là, on se retrouve à revisiter des ouvrages qu'on a lus ensemble durant le premier confinement du printemps. Donc, c'est des ouvrages qu'on connaît déjà. Et là, notre exercice, c'est qu'on prend plus un morceau de l'œuvre qu'on lit collectivement, ensemble, à voix haute.
Torn between the overlapping claims of fiction and those of documentary, I have allowed this magic of state to settle in its awokeness in the division of the forms. I have changed the name of places and people where necessary to preserve anonymity, but also to render most adequately the fictional theatres without which documentaries, including its stories and ethnography, could not be. Through something like breath and strangement effect, naming as renaming can provide insight into what we call history, its makings, no less than its retelling, especially history of the spirits of the dead as the mark of nation and state. But I have in mind by renaming something else as well, namely the evocation of a fictive nation state in place of real ones, so as to better grasp the elusive nature of stately being. After all, it is not only the writer of fiction who fuses reality with dreamlike state. This privilege also belongs, as Kafka taught, to the being in the world of the modern state itself. Part one, the Spirit Queen's Court. One, the Spirit Queen. How naturally we identify and give life to such. Take the case of God, the economy and the state, abstract entities we credit with being, species of things awesome with life force of their own, transcendent over mere mortal. Clearly, they are fictitious in inventing worlds of materialized artifice into worlds woeful and sufficiently of being where place souls turf. Hence the big heads of the state, hence its magic of abstraction and repulsions tied to the nation, to more than a width of a certain sexuality reminiscent of the law of the father, and, lest we forget, to the spectre of death, human death, in that soul-starring insufficiency of being. It is with this, then, with the magical harnessing of the death for stately purpose, that I wish, on an admittedly unsure and naive footing, to begin. What is about the dead that marks them so powerful in this regard? I don't know. Could it be with disembodiment presence expands? Language is like that too. In fact, language depends on this lingering, on an idea tracing an outline around a once solid, breathing form, troubling the body's one bodiesness. Circling endlessly, now and again, pausing for brief words and things, drifting apart, coming together.
If only for the moment, death seals the circuit in a frenzy of anxious embodiment lust. Just as spirit's possession and shock can do, types of death, holding spirit and body at arm's length from one another, eyeing each other. Imagine the tension, the shootout at the OK Corral, your metaphor, my literality. Just the quiet, occasionally interrupted by the stamping of hooves. In the stillness of his standoff, where death interrupts the circle of exchange between the real and the figure of the real, times turn on itself and there begins a glow. The glow of the strange afterlife akin to an after image that surges from radical incompleteness, which is perhaps an odd way of putting it. This constant surging, this
this incompleteness of life, staggering along, now with this way, now that, then physically ended, and given some sort of narrative structure by posterity, another form of incompleteness, really, too definitive a bodily closure on what might have been. Which is why the soul is so important, the indispensable relic that holds open the possibilities for the might have been, back then and over there. And because I feel that I am more known by this than knowing, as though there were an ultimate yet elusive truth in death, inaccessible to people like me, for whom death has been supremely sterilized, not to mention repressed and further mystified, I hope to clarify matters somewhat, and not only for myself, by thinking about the magic of the state in a European elsewhere, your metaphor, my literality, as related by a free spirit who frequented those parts, a sunny place, she said, from where oil flows out, cars, a mow, and videos flow in, and where a crucial quality of being is granted the state of the whole by virtue of death, casting an aura of magic over the mountain at its center. What could be more powerful than the modern state? What is the state?
The European elsewhere has here perfected the European ideal, she said. Wasn't it Hegel, that most Eurocentric of philosophers, who thought the modern state was born in the terror of revolution, so as to realize the Christian synthesis, not after death, but on earth during life? Exactly. That's what goes on here. Thanks to spirit possession, death is fast-forwarded into life.
Oh no, she went on, looking up. It's not the weirdness of the pilgrims. To the contrary, it's the weirdness of the state. Here's a picture of the European elsewhere. She was more a recorder, as you can see, than an artist. This a real place? I asked. What do you want when you want knowledge? Nothing more than this. Fear drives you to reduce something strange to something familiar, so you no longer marvel at it. And then the familiar itself becomes more difficult to see as strange. Is that what the trick takes? I wondered, to abut the here and now with the back then and over there, so you see your world anew?
We remember the Indians, always after. Now they flood back in glory, caciques, warriors, gathering forests here in the Spirit Queen's mountain, rising sheer from the plain with the clouds tumbling through the high voltage pylons. Hegel remarks that all facts and personages of importance occur in world history, as it were, twice. But he forgot to point out that the first time is a tragedy, the second as farce. In the making of mother nations, the dead do double duty.
First time tragedy, second time. No, it's beyond farce. It turns on itself as parody and, mixed with terror, bleeds into the mute absurd for which kitsch is the satisfying resolution. And they say, but you know how much they say, that the police, the army, and even the president are among the foremost worshippers of the spirit of the mountain, spirit queen, that is the one who runs the whole show, left hand, woman, woman's time. What time is that? Eternity, the gift of faith, promise is granted. But the price, is there a price? Must there be a price? Some say no and are scared. Others see an embarrassment of riches, a mountain of excess. The guardians prowling below, the decay, the gloom descending, the rain dripping from the haze of the mountain where life and death ferment in the darkness of plastic everywhere, holy and unclean, garbage everywhere, rocks painted with the national colors, caves with their interiors painted with the national colors, people lying still in front of their shrines under giant trees in the stillness of the night, still. It's beyond stillness, like the interval waiting after the last heartbeat, and beautiful like you never believed. J'ai cassé le silence d'après la lecture, mais parce que j'ai vraiment le texte d'Olivier en tête. Mm-hmm. Et, et j'y vois tant de correspondances avec justement les statues, les fétiches,
les morts et les vivants.
Les morts et les vivants, et le, ouais, le décentrement des points de vue.
En fait, ce qui me semble vraiment intéressant dans son écriture, notamment, pour la relier à quelque chose qui est vraiment, je trouve, américain au sens continental du terme, des Amériques, c'est qu'il y a quelque chose d'une écriture par accumulation qui est vraiment, en fait, très, très typique de quelque chose qui existe, par exemple, dans le conte, les pratiques du conte dans la Caraïbe. C'est-à-dire, en fait, finalement, tu n'as pas une très grande chose à dire, mais tu l'as dit en rajoutant des couches. Donc, mm-hmm. c'est l'inverse d'une radicalité littéraire au sens, tu sais, de la philosophie, par exemple, où tu as une espèce d'idée un peu à l'os. Là, il n'y a que de la chair, presque, en fait, et à force de l'accumuler, ça finit par faire une espèce de... Mais il y a une texture que je trouve vraiment intéressante. Tu vois, de tourner autour de quelque chose au sens de, tu sais, de rajouter... Et en fait, je me suis dit qu'il le faisait assez consciemment parce que quand je lisais Mon musée de la cocaïne, il parle en fait de comment en fait les indigènes font un travail de divination en consommant des feuilles de coca avec une poudre de coquillage comme ça dans des bouteilles. Et à force de faire ce mélange-là qui révèle en fait qui transforme la feuille de coca en vraiment hallucinogène, ils ont des espèces de bouteilles en fait, de quelque sorte, et s'accumule sur le bord une concrétion par l'usage. Et il disait justement que dans les musées, il n'y avait plus que le récipient comme une bouteille, il n'y avait plus cette concrétion-là qui est faite entre la salive, la fleur de coca et des coquillages écrasés qui font le... Et en fait, c'est vraiment l'idée d'une accumulation par l'usage, presque d'une émergence, de se lever. Dans le texte, je parle en fait qu'un lieu doit se lever, et c'est de ce mouvement-là en fait que je parle vraiment, c'est-à-dire que rien n'est imposé, il se lève au sens par une espèce de pratique, comme si la voix, la parole, la pensée faisaient monter un texte, comme de la salive mélangée à du coquillage, à la fleur de coca, après des années, fabrique un disque en haut de ses bouteilles, qui est donc une espèce de forme, de sculpture qui se lève, mais qui n'est jamais ordonnée par un désir de forme, en fait. Mm-hmm. Tu vois, elle se lève par la conséquence d'une pratique. Et je trouve que son travail de ce texte qu'on vient de lire me fait aussi cet effet-là, c'est-à-dire qu'un sens se lève, se monte, quoi, se dresse, même si ça s'allonge finalement aussi, mais quelque chose en tout cas apparaît comme en circulant sur une scène, en fait. Tu vois, et c'est ce mouvement de circulation qui fait le sens. Mm. Donc au lieu d'y aller directement, tu y vas peut-être par le... Et ce qui est bien, c'est que je pense que le chemin que nécessite les passages que doit faire la pensée pour arriver à l'idée, il est retranscrit dans l'écriture. Ce qui a toujours été moi mon idéal, mais des fois, notamment mes correctrices et souvent les traducteurs demandent de raccourcir, parce que moi je fais aussi des espèces de notes qui sont des espèces de textes dans le texte, mais pour la même raison. Pour la raison qu'en fait, tu laisses à vue comment ce que tu veux partager émerge, en fait. C'est-à-dire, tu ne dissimules pas après. Et je trouve qu'il y a ça avec aussi. Tu vois, on part sur un truc et puis on se dit, mais pourquoi il parle de ça? Et puis finalement, quelque chose, une scène apparaît, quoi.
Il a quelque chose qui échappe la ligne droite de l'histoire, la ligne droite aussi de ce cinéma colonisé par l'industrie, dans lequel il y a toujours un désir de révélation et un désir de climax. Parce que c'est le climax qui va donner quelque part une sensation de jouissance en public, comme si en fait la question du plaisir, de la forme et des récits n'était pas déjà là dans tous les éléments qui croisent un cadre et qui font peut-être un cinéma plus des accidents qu'un cinéma des climax et des fabrications d'une forme linéaire aussi.
Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui touche aussi, tu vois, le débat aujourd'hui qu'on peut avoir sur les questions d'alliance, par exemple, de scènes futures, et j'en parle un peu dans mon texte, mais c'est une préoccupation importante pour moi, c'est le rapport de résolution. Les gens, ils veulent faire des choses pour, comme tu dis, le climax, pour moi, c'est une révolution narrative. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de problème et que tout problème appelle à une forme de solution. Et donc, moi, j'aime bien, en fait, le fait qu'il n'y ait pas d'élucidation, en fait, que l'énigme soit aussi une manière, une pratique de savoir, et que la notion d'élucidation, donc, dit, alors, c'est quoi la solution? Tu vois, tu vas porter une critique et ils t'en disent, alors, c'est quoi la solution? Ben, je ne sais pas, moi, je ne sais pas la solution, parce que je ne sais pas s'il y a une solution, mais je ne me sens pas obligé qu'il y en ait une. Donc, tu vois, si tu critiques, tu as intérêt à venir. Pour moi, il n'y a pas de critique sans proposition, mais par contre, une proposition n'est pas une solution. Et ça, c'est important parce que je pense que tenir des formes qui ne sont pas élucidées, c'est vraiment respecter des formes d'opacité nécessaires pour ta forme de vie. Pour moi, le cinéma, voilà, un cinéma en dehors et ce pays en dehors, c'est aussi quelque chose qui accepte de fonctionner sans forme de logique même et d'élucidation. Donc la question du délire, c'est aussi ça. C'est-à-dire, c'est d'abord une forme d'expérience et il se passe quelque chose. Quand tu écoutes le texte de Toxic qu'on vient de lire, c'est quelque chose qu'il faut qu'on traverse, quoi. Littéralement, mais qui ne nous mène pas à quelque chose. Tu vois, il ne fait qu'ouvrir des questions. Et des... Donc, tu, finalement, tu te charges de sensations, de questions. Et il y a un effet que j'aime bien et donc que j'évoque dans le texte Cinéma des parlants, qui est le principe de la saturation. C'est-à-dire que si on est obligé de parler, dans le cas d'une scène des aveux, l'une des possibilités, c'est de saturer la scène d'aveux. Donc, de rendre inutilisable juridiquement. Et ça, je pense que Toxic va dans cet endroit-là, se dire, tu satures de sens et de possibilités le texte pour que jamais il ne soit en train vraiment, clairement, de décrire quelque chose. Mm-hmm. Tu vois, tu as presque trop d'informations. Et je crois que le cinéma a un vrai avantage sur la littérature, même si on peut l'emmener là-bas, que voilà, cette espèce d'effet d'immersion au niveau de la sensation, quoi, qu'il y a un cinéma où il y a trop de choses. Je trouve que c'est une des solutions, en fait, de la non-représentation. Donc, sortir, je dirais, de la scène de représentation, comme dans le texte, j'en parle, je vois deux manières, à la fois s'extraire du cadre ou alors saturer, en fait, l'espace. Mais dans les deux cas, tu annules la possibilité que ce qui est dit soit utilisé comme une preuve de quelque chose et donc comme une solution de quelque chose. Et là, le texte de Toxic, il est très juste là-dessus. Il nous laisse tellement de niveaux de savoir que finalement, tu dis, mais de quoi ça parle, en fait? Et ça, je trouve ça bien. Moi, c'est un vrai plaisir, mais ce n'est pas le plaisir de tout le monde. Et tu vas dire, en fait, qu'est-ce que tu veux dire, là? Mais merci pour cette méthode d'apprendre. C'est vraiment chouette. En plus, merci aussi pour l'auteur, parce que je pense que quand tu écris, tu rêves toujours que les gens lisent à voix haute les textes. Pour moi, c'est une espèce de fantasme d'écriture. Vraiment, hein. Donc, parce que quand ça rentre dans le corps, la littérature, ça change vraiment. Ouais. C'est autre chose, quoi. Ouais. Je pense que voilà, ça accomplit, ou je pense, un fantasme de beaucoup d'écrivains, en tout cas, qui écrivent de cette manière-là.
Critique de l'État.